De vous retrouver pour cette nouvelle session d'information sur le studio Kalangou. Il est 18h. Bonsoir à tous et bienvenue au micro Nafissa Adam Sirfo. Les titres de ce journal à la une, l'attaque perpétrée hier soir par des éléments de la secte Boko Haram dans le village de Ingalewa au nord-est de Kablewa dans le département de Guingili, région de Difa. Bilan, 9 personnes tuées et une quarantaine enlevées. Autre attaque, cette fois-ci à Agadez, des bandits armés ont attaqué hier soir 3 bus de transport voyageurs sur l'axe Tawa-Agadez. Les passagers ont été dépouillés de leurs biens, certains tabassés et l'un des chauffeurs blessé par balle. Et puis c'est demain que débuteront les épreuves du brevet d'études du premier cycle sur toute l'étendue du Niger. Le point des préparatifs dans ce journal. Enfin, à suivre en partie magazine, un reportage sur les tricycles à moteur communément appelés Adeidetasahou en Hausa, utilisés dans la région de Maradi. Hier nuit encore, Boko Haram a attaqué le village de Ingalewa à 7 km au nord-est de Kablewa, région de Difa. Bilan, 9 jeunes tués et une quarantaine de femmes et enfants ont été enlevés. Abari El Hadj Daouda, maire de Kablewa.
Le gouverneur, la dernière fois, lors de son passage, nous a demandé de trouver un autre site de relocalisation de ces déplacés-là, parce qu'ici, ils sont très exposés. Bon, on a fait les tours pour voir à l'ouest du Goudron, mais on a identifié un site où on pense que ça va faire l'affaire. D'autres ont mal perçu l'information. On n'a pas dit que déjà, au lendemain du départ du gouverneur, que les gens vont tous quitter pour aller eux-mêmes sur les sites. Donc, il y a des dispositions qu'il faut prendre pour voir comment il faut assurer la sécurité, l'eau, les abris, avant que ces gens soient officiellement transférés là-bas. Mais malheureusement, les gens ont tous quitté le camp suite à la peur. Bon, quand la personne a peur, on ne peut pas lui dire de ça forcément, mais bon, parce que les gens ont mal perçu l'information et qu'ils ont vite déguerpi l'ancien camp avant que l'ordre ne soit donné de quitter le camp.
Abari El Hadj Daouda, maire de Kablewa, au micro de nos confrères de la Deutsche Welle. Difa toujours, les 16515 réfugiés du camp de Kablewa ont déserté le camp par peur d'exactions ou d'incursions des éléments de Boko Haram après l'attaque kamikaze du jeudi dernier qui a fait 2 morts et 11 blessés. Adam El Hadj, président de l'association des réfugiés de Difa, au micro de nos confrères de la Deutsche Welle.
Un jeudi nuit, il y a quelques BH qui ont attaqué le camp. C'est dans la nuit vers 11h50. On a eu entendre une explosion comme ça. Et pendant la matinée, les FDS sont venus chez moi. On a été ensemble pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Il y a 2 femmes qui ont été explosées en bombe. Il y a 2 personnes du camp qui ont été assassinées par ça. Une femme et un jeune homme. C'est la viande d'un homme partout. Il y a ceux qui ont fait même 2 jours sans manger, ceux qui sont à côté de la place de l'explosion, les intestins d'un homme, et ils ont eu peur. Ils n'ont même pas eu à manger. Maintenant, ils n'ont pas quitté pour un autre camp, seulement ils ont quitté pour la peur, pour un peu rester à la brousse, puisque eux, les Boko Haram, ils ont informé qu'ils viendraient pour prendre leurs cadavres.
Autre attaque, celle-ci de la région d'Agadez, où les attaques de bandits armés reprennent sur les axes routiers. Après donc l'attaque de la semaine dernière d'un bus de voyageurs sur l'axe Agadez-Arlit, hier soir les bandits ont de nouveau attaqué, cette fois-ci sur l'axe Tawa-Agadez. Ce sont 3 bus de transport de voyageurs et plusieurs minibus de marque Toyota Hiace qui ont été pris d'assaut à l'entrée de Agar Barbar, situé à 180 km d'Agadez. Comme pour la première attaque, les passagers ont tous été dépouillés de leurs biens et l'un des chauffeurs, celui de la STM, a été blessé. Le point avec Moussa Maman.
C'était aux environs de 19h après la prière du Maghrib que les premiers bus de la compagnie de transport Al-Iza, en partance pour Agadez, est tombé dans l'embuscade par des bandits armés. Mahamadou est le chauffeur du bus, voici son témoignage. À l'entrée du village Agabargabar, on a été attaqué. On a trouvé une haïse qu'ils ont attaqué d'abord et placée au milieu de la route pour barrer la voie. Ils ont dit aux passagers de se coucher sur la route. Même si un véhicule arrive, il ne peut pas passer. Quand on est arrivé, on a freiné. On a voulu faire marche arrière, les bandits sont sortis. sortis armés. Ils sont au nombre de 6. Mais ceux qui sont armés sont 4. Ils sont venus vers nous en tirant 3 fois. Un tiré sur terre et 3 autres tirés sur le bus. Ils m'ont dit d'ouvrir la porte et j'ai obéi. J'étais descendu et après ils ont dit à tout le monde de descendre et de se mettre à terre et tout le bien des gens ont été saisis. Dépouillés de tous leurs biens, dont l'argent et les téléphones mobiles, les passagers expliquent leur mésaventure.
On a ouvert le bus, on nous a dit de sortir en nous demandant de l'argent. Ils nous ont dit de se coucher et d'amener ce qu'on a. Et tout celui qui donne de l'argent, on le met à côté et ceux qui n'ont pas donné ont été tabassés. Après avoir sonné les gens, ils sont rentrés dans le bus. Tous les biens qu'ils ont trouvés, argent et portable, ils ont pris. Ils ont dit à tout le monde d'amener de l'argent et celui qui refuse sera tué. Notre maman était partie prendre de l'argent et leur a donné et ordonne à tout le monde de se mettre à côté pour s'asseoir. Quand ils ont fini de ramasser l'argent, ils ont demandé à tout le monde le pardon.
Le deuxième bus, celui de la compagnie de transport STM, tombe également dans les mêmes filets et le chauffeur blessé par une balle de malfrat. Les récits des faits avec Mamadou Ousmane Agali, chauffeur STM.
Quand moi que je suis venu, j'ai trouvé Aliza devant moi. Je crois que la vue est serrée, que le passager va s'éliminer ou bien quelque chose ailleurs comme ça. Voilà. Donc que je suis venu, donc les bandits sont sortis. Ils sont 4, 3 avec des armes. Ils ont tiré sur STM 4 balles. C'est un balle qu'ils m'avaient rentré dans ma main. Après, donc ils ont descendu les gens pour fouiller, pour prendre leur argent. Leur bien, donc après ils sont partis. Parce qu'il y a une femme là qui a dit qu'il avait 2 400 000. Ils ont tout pris, donc ils ont tapé les gens.
Le commandant de la brigade de la gendarmerie d'Agadez a confirmé l'attaque et a expliqué que les biens emportés par les bandits sont inestimables et au moment où ils sont arrivés sur le lieu, les bandits étaient déjà partis. Ces derniers temps, dans la région d'Agadez, on dénombre plusieurs attaques à main armée. Moussa Maman, depuis Agadez, pour le studio Kalangou.
Ce 3 juillet, c'est la journée mondiale sans sac plastique. Cette journée est célébrée pour protéger l'environnement qui se trouve à être menacé par d'importants déchets plastiques. L'Association des jeunes volontaires pour l'environnement au Niger se réjouit de la célébration d'une telle journée. Écoutons son directeur exécutif, Sani Ayouba.
Les torts causés globalement à l'environnement par la prolifération des sacs plastiques est vraiment très importante. Donc, je pense que dédier une telle journée aux sacs plastiques est une bonne chose et qui devrait quand même nous amener à avoir une attitude positive, à changer de comportement, à observer au moins, voir ce que ça peut avoir comme impact si, en cette journée, tout le monde essaie de ne pas utiliser un sac plastique. Je pense qu'en termes de réduction par rapport à l'utilisation, en termes de déchets, en termes de pollution, notre environnement aura beaucoup à gagner. Aujourd'hui, au Niger, même si on dit le nombre, en tout cas s'il faut quantifier les sachets plastiques, les déchets plastiques qu'on a au Niger, c'est énorme, c'est énorme. Et un pays dont l'économie est basée sur l'agriculture et l'élevage, qui reste proliféré, des déchets comme ça qui nuisent, parce que vous savez, quand il y a des sachets plastiques enfuis dans le sol, on ne peut pas s'aimer. Les animaux qui en mangent, c'est des problèmes. Donc il y a beaucoup de choses qui doivent nous pousser à réagir, à dire que non, il faut qu'on arrête, il faut qu'on change.
Des propos recueillis par Asumana Shina. En bref, ouverture ce 3 juillet à Addis Abeba, en Éthiopie, de la 29e session ordinaire du sommet de l'Union africaine, placée sous le thème « Trier pleinement partie du dividende démographique en investissant dans la jeunesse ». Ce sommet se penchera durant 2 jours sur la réforme de l'Union africaine ainsi que sur les questions de paix, de sécurité sur les continents africains, en particulier sur les crises maliennes, libyennes et au Soudan. Le président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou, ainsi que plusieurs autres dirigeants africains y prennent part. La suite de cette édition, tôt ce matin, les autorités régionales d'Ottawa étaient au Grand Marché. Objectif, rendre la ville coquette avant la fête tournante de la République célébrée chaque 18 décembre. Écoutons le gouverneur de la région, El Hadj Moussa Abdrahman.
Là, on est au niveau donc du marché pour ramasser tout ce qu'il y a comme débris, pour rendre en attendant, en tout cas, le quartier au moins propre. Et c'est pourquoi nous sommes là. Nous pouvons dire que c'est un démarrage de ces travaux, non seulement du ramassage donc des débris, mais aussi de la stabilité de la ville d'Ottawa. C'est vrai, l'organisation des femmes, l'organisation des jeunes ont eu à faire donc le pas de la salubrité, mais ici, c'est les gros travaux, c'est le gros nettoyage où, en tout cas, la population a eu vraiment le courage et volontairement en tout cas casser donc les boutiques qui sont donc sur ces trottoirs là. Donc c'est pourquoi nous sommes là, vraiment pour encourager en tout cas la mairie, en tout cas qui a pris donc cette initiative. Voilà pourquoi donc on est là.
De l'éducation dans cette édition, 138 533, dont 61 193 filles, soit 44,17%, c'est le nombre exact des candidats qui sont appelés à affronter dès demain, mardi 4 juillet, la session 2017 du brevet d'études du premier cycle BEPC. Ils auront à composer dans 452 centres d'examen répartis à travers l'ensemble du territoire national. À quelques heures du début des épreuves, voyons le point des préparatifs dans ce reportage de Michel Dégé.
C'est la dernière ligne droite dans le cadre des préparatifs de ce BEPC 2017. Selon les responsables de quelques jurys que nous avons trouvés sur place, tout le dispositif en termes de matériel est déjà prêt et une première réunion de prise de contact est organisée avec les surveillants, correcteurs et autres agents pour la lecture de certaines dispositions de contrôle et le règlement intérieur, pendant que du côté des candidats, chacun tente de s'assurer que son nom figure sur les listes affichées en cette veille d'examen. Sakina Haruna et Ibrahim Hassan y ont trouvé leur nom ici au jury 33 du centre Suez Yantala.
J'ai vu mon nom, c'est ici que je vais m'asseoir ici. Demain, Inch'Allah.
On a raté beaucoup de choses et le temps ne suffit pas. Ils nous ont dit demain c'est les examens, Inch'Allah, ou demain on va venir composer. Si Dieu dit on va réussir, Inch'Allah, on va réussir.
En ce qui concerne les préparatifs au niveau national, l'on ne déplore pour le moment aucun incident ni manquement majeur et le ministre des enseignements secondaires est déjà à Diffa où il procédera au lancement officiel de cet examen ce mardi 4 juillet 2017 à 8h précise, annonce le secrétaire général de ce ministère.
En tout état de cause, les dispositions sont prises, même au cas où des mots d'ordre seraient amenés à être faits. Et donc, c'est le lieu de s'allier tous les acteurs dans le processus qui ont mis de leur sien pour travailler dans le sens de l'organisation et de la réussite de ces examens-là.
Comme les années précédentes, le BEPC de cette année 2017 est organisé en collaboration avec la Halcia, qui a des représentants impliqués dans tout le processus du déroulement de cet examen sur l'ensemble du pays.
À présent, la partie magazine de cette édition, à Maradi, depuis plus de deux ans, le visage du transport urbain a changé avec l'apparition des tricycles à moteur, communément appelés en Hausa Adedeta Sahou, dont la clientèle est dominée par les femmes et les enfants. Ces engins de couleur jaune font la fierté des jeunes qui ont trouvé le moyen de combattre l'oisivité et gagner leur vie à la sueur de leur front. Reportage de Mohamed Maman.
Au bord de la route, Memouni Yataga agite la main pour arrêter un Adedeta Sahou. Chaque matin, comme beaucoup d'autres personnes, c'est le moyen de transport qu'elle utilise pour se rendre sur son lieu de travail. Pour elle, ces tricycles taxis sont très pratiques, d'où l'attrait de la clientèle.
C'est très facile, et surtout que les chauffeurs suivent la loi, le règlement. Dès qu'on te prend, on te dépose en même temps. Non, c'est moins cher, 150, très bien satisfaite. Qu'ils soient plus prudents pour éviter les accidents.
Observés depuis plusieurs années dans les films indiens au Nigeria, les Adedeta Sahou sont des motos à trois roues de couleur jaune équipées de trois sièges protégés par un hangar, juste derrière le conducteur. Ces montures ont envahi la ville commerçante de Maradi. On dénombre plus de 1800 tricycles en circulation, selon le secrétaire général de l'association des conducteurs d'Adedeta Sahou, rien que dans la ville de Maradi. Mais pourquoi ces fameux tricycles sont devenus la coqueluche des transports urbains à Maradi? Mahamadou Atikou répond.
Généralement, ce sont les femmes qui se déplacent à Adedeta Sahou. C'est quelque chose de nouveau ici, parce que les femmes préfèrent Adedeta Sahou. Il y a de l'aération. Par exemple, quand elles rentrent dans le taxi, peut-être 3 ou 4 personnes sur la même place, vous voyez comment ça dérange les femmes. Ça aide beaucoup, ça aide à soutenir la famille. Quand vous voyez maintenant dans cette ville-là, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui chôment. Ça réduit le chômage, c'est pour cela que nous, on a pris ça, un grand métier, ça nous aide beaucoup.
Cette introduction en force des tricycles dans le quotidien des gens de Maradi n'a pas fait que des heureux. En effet, les taxis classiques sont en train de disparaître à petit feu. La preuve de 242 unités à la bonne période, aujourd'hui, ces voitures taxis classiques ne sont qu'une cinquantaine, selon le président du syndicat des conducteurs de taxis de la région de Maradi, Oli Oumane.
Ici à Maradi, le taxi même n'existe pas. Pour cela, Avant, on a un nombre de 542 taxis. Mais maintenant, on est au nombre de 50 à 60 taxis. Le taxi a très chuté ici à Maradi, puisqu'il manque de clients. Les clients se sont retournés face à notre concurrent, le Adedita. Avant, dans les années 2013, supposons, avant que le Adedita arrive, en journée, tu peux avoir 20 000, 25 000 à 15 000. Mais pour le moment, si un taxi te dit qu'il a gagné 10 000 même, ce n'est pas possible.
Mohamed Maman, depuis Maradi, pour le studio Kalangou.
Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.